Santé.
C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat, c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon lundi, j'espère que tout se passe bien de votre côté, Marianne Paquette. Bien heureuse de vous accompagner pour les 30 prochaines minutes. L'émission « C'est bon pour la santé » qui débute à l'instant sur Canal M. Vous dire qu'une personne sur cinq fera face au cours de sa vie à des problèmes de santé mentale. Évidemment, depuis quelques années, et vous l'avez probablement constaté de votre côté, on en parle de plus en plus. Et ça a de nombreux bienfaits, je dirais. Peut-être l'un d'entre eux est de démystifier la maladie mentale, de mieux soutenir également les personnes qui sont touchées par ces maladies, leurs proches également. La science aussi fait des pas de géant dans ce domaine, mais à ce que l'on me dit, les fonds pour la recherche sont encore plutôt rares. La Fondation de l'Institut Douglas prépare pour la deuxième année un grand défi sportif dont les profits serviront à poursuivre la recherche, notamment en neurosciences et en santé mentale, d'offrir aussi des soins de qualité, que ce soit aux personnes touchées, mais parfois aussi tout l'encadrement encore des proches et de la famille immédiate, et de poursuivre à sensibiliser la population. J'en parlerai tout à l'heure de ce défi Douglas avec Caroline Apollon. Elle est directrice du développement à la Fondation de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas. Aussi, un autre clin d'œil à la Semaine québécoise des personnes handicapées qui se termine, je vous le rappelle, demain avec un sujet qui touche plus de 50 000 personnes au Canada. Je parle ici des maladies neuromusculaires et on pourra en apprendre davantage. Là, il y a plusieurs types, plusieurs formes de maladies neuromusculaires. Peut-être l'une des plus connues serait la SLA, la sclérose latérale amyotrophique, mieux connue grâce au Ice Bucket Challenge. Vous en avez probablement entendu parler dans les dernières années. Dans la plupart des cas, il n'y a pas encore de traitement pour vaincre les maladies et, bon, je pense que le grand défi, le principal défi des personnes atteintes d'une maladie neuromusculaire, bien, c'est la gestion au quotidien de la maladie et qui passe directement par le soutien qui est apporté par les intervenants en santé, par aussi les approches, les interventions mises de l'avant. Et pour ce faire, ce qui est important, c'est de stimuler le partage et le transfert des connaissances. C'est d'ailleurs le cheval de bataille de mon invité. Je vous la présente à l'instant. C'est Cynthia Gagnon. Elle est professeure agrégée à l'École de réadaptation à l'Université de Sherbrooke, directrice du groupe de recherche interdisciplinaire sur les maladies neuromusculaires. Bonjour Cynthia.
Bonjour.
Cynthia Gagnon, avec vous, on parle aujourd'hui de ces maladies neuromusculaires et je pense qu'il est important en début de discussion de préciser que ce qui rend peut-être complexe les approches, les interventions en ce qui a trait à ces maladies, c'est que ce sont des maladies rares.
Oui, effectivement. Donc, les maladies rares comprennent entre 6 000 et 7 000 diagnostics différents. Et quand on parle de maladies neuromusculaires, on va parler peut-être entre 200 ou 300 diagnostics différents. Donc, c'est des enjeux majeurs quand on est un clinicien, qu'on soit un neurologue, un ergothérapeute ou un physiothérapeute, pour être capable de connaître ces maladies-là. C'est évidemment impossible de les connaître de façon individuelle. Donc, ça fait un challenge important au niveau de la formation et du suivi clinique.
Oui, c'est que si on les prend individuellement, ce sont des maladies rares, mais prises globalement, ça fait beaucoup de personnes au Canada qui sont touchées, notamment si on compte les proches et les familles.
Tout à fait. Bien, on parle présentement environ d'une personne sur 10 à une personne sur 12 au Canada qui serait touchée par une maladie rare. Donc, effectivement, elles sont quand même très fréquentes. Notre chance comme intervenant de la santé de rencontrer quelqu'un avec une maladie rare est, dans le fond, un peu à toutes les 12 personnes qu'on rencontre.
Ouais.
Je caricature un peu, mais effectivement, on a quand même une grande chance de rencontrer ces personnes-là et qui vont avoir des diagnostics extrêmement variés et des problématiques très différentes.
Oui. Qu'est-ce qu'ont en commun ces maladies neuromusculaires?
Si on parle des maladies neuromusculaires, donc évidemment, le nom le dit, ça va toucher soit le muscle ou soit ce qu'on va appeler les effecteurs, donc ce qui va permettre la contraction musculaire, donc soit le nerf ou la partie motrice de la moelle épinière. Donc, c'est vraiment ces aspects-là de la structure anatomique qui vont être touchés. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que le muscle ne viendra plus à fonctionner comme il faut et à faire sa contraction. Et là, dans le fond, va apporter des problématiques, soit au niveau de la mobilité, du travail, de la réalisation, dans le fond, de l'activité de la vie quotidienne pour plusieurs de ces gens-là. Et le patron, dans le fond, le patron d'implication, le patron d'atteinte est différent. Donc, on connaît peut-être mieux la dystrophie du chêne, oui, que l'on voit souvent lors des téléthons qui affecte les jeunes garçons. Et là, le patron d'atteinte va vraiment être du proximal, donc des épaules vers la main. Donc, on va avoir une progression lente de leur faiblesse musculaire. Alors que dans des maladies comme la dystrophie myotonique, avec lequel je travaille beaucoup, le patron va être vraiment, l'atteinte va être d'abord au niveau de l'appréhension de la main et des pieds et va remonter tranquillement vers une approche plus proximale. Mm-hmm. Donc, ce qui va amener des problématiques très différentes, dépendamment de ça. L'autre chose qui les caractérise, c'est leur rythme de progression. Donc, certaines vont avoir un rythme de progression très rapide, comme la sclérose latérale amyotrophique en général, alors qu'il y a des maladies qui vont se développer avec des rythmes de progression de 1 à 3 % par année de perte de force musculaire.
Mm-hmm. Même chose pour l'espérance de vie, et on en parle, Cynthia, parce que je sais que c'est une question qui revient souvent, notamment lorsque notre enfant reçoit un diagnostic de maladie neuromusculaire. Souvent, la question, c'est de quelle façon il y aura des atteintes plutôt sur l'espérance de vie.
Et là, encore là, il y a une grande variabilité au sein des différentes maladies neuromusculaires. Et il y en a aussi au sein même d'une même maladie neuromusculaire, parce que dépendamment de l'atteinte génétique, il va avoir une espérance de vie plus ou moins grande liée à ce diagnostic-là qui est fait au niveau génétique. Donc, si on parle de la dystrophie du chêne, on parlait il y a encore quelques années d'une espérance de vie entre 15 et 16 ans. Et maintenant, on est plus autour de 25-30 ans avec le développement de nouveaux diagnostics. Alors que pour la dystrophie myotonique, en général, on va parler d'une espérance de vie autour de la soixantaine. Donc, c'est là encore là, effectivement, très variable.
Oui. Et de là, cette importance, et je sais que c'est très important pour vous, ce transfert, ce partage des connaissances, parce que avec 200, 300 formes ou 300 types de maladies neuromusculaires, ça fait beaucoup d'informations variables aussi à partager.
Effectivement. Et c'est une des clés, je vous dirais, de la recherche présentement, c'est-à-dire d'abord de regrouper des équipes cliniques pour être capable de documenter les atteintes. Parce que, bon, une fois qu'on a un diagnostic d'ataxie de Charlevoix-Saguenay ou de dystrophie myotonique, la première chose qu'on veut faire comme parent ou comme intervenant, c'est d'aller s'informer. Donc, on va regarder dans les articles scientifiques, dans les sites web, etc. Et souvent, il y a très peu d'informations sur les questions clés que les patients vont se poser, comme combien de temps je vais pouvoir marcher. Est-ce que je vais être capable de travailler encore dans la quarantaine? Quelle est mon espérance de vie? Donc, c'est encore là variable d'une maladie à l'autre, mais il y a plusieurs maladies où il existe très peu d'informations. Par contre, ce qui existe et sur lequel je base plusieurs de mes travaux, c'est qu'il y a des cliniques surspécialisées, donc des cliniques neuromusculaires. Il y en a à Québec, Montréal et au Saguenay, si on parle des maladies neuromusculaires, où les intervenants vont travailler pendant 20, 30, 40 ans et vont voir souvent plusieurs patients qui sont atteints de la même maladie neuromusculaire. Ils vont développer une expertise clinique. Et cette expertise-là clinique, elle se doit, dans le fond, d'être cristallisée avant que l'intervenant parte à la retraite ou parte pour travailler dans un autre établissement ou un autre programme. Parce que cette expertise-là est clé pour être capable de mieux informer les autres cliniciens à faire qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qu'on fait, mais aussi les parents en termes de pronostic clinique, parce qu'on va parler beaucoup de pronostic clinique pour préparer les interventions. Donc, c'est pas quand c'est le temps d'avoir un fauteuil roulant, la journée où on a besoin d'un fauteuil roulant, qu'il faut commencer à en parler. Le choc est trop important. Il faut préparer le jeune, il faut préparer sa famille. Mais en même temps, si on n'a aucun article ou information pour nous dire à peu près à quel âge il devrait avoir besoin d'un fauteuil roulant ou quels sont les signes précurseurs, ben c'est très difficile d'anticiper dans les maladies qui sont lentement évolutives, de savoir si l'an prochain ou dans deux ans, il va avoir besoin d'un fauteuil roulant. Donc, c'est là que le transfert de connaissances se fait. Et ça doit se faire beaucoup par des modèles qui sont pas pareil aux maladies communes. Aux maladies communes, on a des congrès, on a des articles scientifiques, on a des journées de formation. Mais quand vous avez un intervenant qui voit deux patients par année, évidemment qu'il n'ira pas passer trois jours en formation et on veut pas ça non plus. Mais il y a des modèles de transfert de connaissances qui s'appuient beaucoup sur les patients en leur donnant des outils de transfert de connaissances pour leurs intervenants ou en développant des réseaux. Alors, nous, en maladie neurovasculaire, on a développé le réseau MNM Wiki, qui est un réseau d'intervenants, qui est un site web, mais sécurisé, où les intervenants peuvent venir pour parler à un expert, partager les meilleures pratiques et aller chercher, dans le fond, l'information qu'ils ont besoin et avoir accès à des spécialistes dans leur domaine. Donc, qu'ils soient ergo, physio, il y a des experts qui se rendent disponibles pour discuter de cette maladie-là et aider le nouvel intervenant à avoir des meilleures réponses à offrir.
Oui. On parle de ces variables qui caractérisent les maladies neuromusculaires, Cynthia. Entre autres choses, je pense que les causes peuvent être assez variables aussi.
Oui, ben les causes, dans le fond, elles sont spécifiques souvent à chacune parce que la majorité des maladies neuromusculaires sont des maladies génétiques et chacune des maladies neuromusculaires a, dans le fond, une cause génétique qui est différente. Mm-hmm. Mais ce qui rend encore plus complexe, par exemple, ce que je dirais qui est un des aspects très importants, c'est-à-dire l'odyssée diagnostique. Parce que quand on a des symptômes, un enfant qui chute à 2-3 ans, si vous êtes au Saguenay-Lac-Saint-Jean, rapidement, le pédiatre va penser à de la taxie de Charlevoix-Saguenay. Si vous êtes aux Pays-Bas, oui. Ça peut prendre 15 ou 20 ans avant que quelqu'un pense que vous pouvez avoir cette maladie très rare qui existe quelque part ailleurs et qui est la taxie de Charlevoix-Saguenay. Et ce qui complexifie le diagnostic et qui l'aide en même temps, c'est que, par exemple, pour la taxie de Charlevoix-Saguenay, sur le gène qui cause cette maladie-là, il y a 100 mutations différentes présentement qui sont documentées. Et vous comprendrez que ça a pris du temps avant de trouver chacune des mutations qui pouvaient donner la taxie de Charlevoix-Saguenay. Mm-hmm. Mais maintenant, le dépistage génétique et les nouvelles techniques génétiques permettent vraiment d'optimiser la recherche des gènes qui vont donner la maladie et qui vont permettre rapidement aux patients d'avoir un diagnostic. Et là, du moins un meilleur accès à des services spécialisés, à de l'information et aussi de pouvoir avoir le pronostic à long terme. Parce que beaucoup de gens vont avoir des maladies non diagnostiquées. On sait que c'est une maladie neuromusculaire, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont. Oui. Là, c'est très difficile de prévoir le futur. Est-ce que je vais avoir une famille? Est-ce que je vais pouvoir travailler? Comment je vais entrevoir le futur? Alors, dès lors qu'on a un diagnostic, déjà, c'est une partie importante là, de la démarche qui est amorcée.
Pourquoi on donne à ces maladies des noms de régions, comme je pense c'est un bon exemple, la taxie Charlevoix-Saguenay, lorsque l'on sait maintenant que ça peut se produire dans d'autres pays ailleurs dans le monde?
Oui, bien, au départ, je pense que j'ai pas toute la petite historique derrière les noms spécifiques, mais je sais que souvent, c'était parce qu'on pensait que c'était simplement, par exemple, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mm-hmm. Et c'est peut-être aussi quelque chose qui, à long terme, est peut-être pas une pratique optimale maintenant et qui est plus très utilisé parce que, justement, ça reflète que ça serait seulement dans cette région-là. Oui. Alors que, par exemple, la taxie de Charlevoix-Saguenay est en train de devenir une des nouvelles ataxies diagnostiquées chez les patients qui ne l'étaient pas, une des plus fréquentes types d'ataxies, dans le fond, dans les Pays-Bas. Alors, mais pourtant, c'est très lié à une région, à un historique de région, parce que souvent, pour faire le diagnostic, ce qu'on fait, c'est qu'on rassemble des patients qui présentent un peu les mêmes portraits cliniques. On introduit ça dans la machine génétique, et là, on regarde où est-ce qu'il y a des choses qui se ressemblent au niveau génétique, donc des petits twists dans la génétique qui font que, tiens, ils se ressemblent tous sur cet aspect-là. Et c'est comme ça qu'on finit par trouver le gène. Mais il faut que ça soit au sein d'une population de patients similaires. Et souvent, ce qui arrivait, c'est que, par exemple, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on trouvait des patients qui trébuchaient plus jeunes à l'âge de 2 ans. Et à un moment donné, on est arrivé. On a pris une prise de sang. On mm-hmm. a travaillé sur la cause génétique et c'est devenu la taxie de Charlevoix-Saguenay. Mais quand c'est des... Et c'était lié à la région parce que c'est là qu'on a trouvé une masse assez importante de patients ouais. pour être capable de dire que ça vaut la peine d'aller chercher le défaut génétique spécifique. Mais pour ça, il faut avoir plusieurs patients qui présentent les mêmes symptômes.
Et qu'est-ce qui explique que ces défauts génétiques se trouvent davantage dans une région qu'une autre, Cynthia?
Oui. Donc, ce qui est important, dans le fond, de dire, c'est qu'il y a, il y a plusieurs façons d'en arriver là. Une de celles-là est l'effet fondateur. C'est-à-dire que, bon, pour le Québec au complet, on vient principalement d'une région en France. Donc, il y avait une variabilité déjà génétique spécifique. Donc, je parle toujours de mes 24 couleurs de crayon Crayola. Oui. Et probablement qu'il y en a peut-être une douzaine de couleurs qui sont parties vers le Québec. Donc, un premier effet fondateur. Donc, on a un patrimoine génétique plus homogène. Ça ne veut pas dire qu'on est parenté, c'est juste notre patrimoine génétique qui vient d'une région spécifique de France, donc qui est en partie plus homogène. Par la suite, on est allé vers un... Il y a des gens qui sont partis de Québec pour aller à Charlevoix et par la suite à Saguenay, ce qui fait un triple effet fondateur. Donc là, on avait une diversité génétique qui était moins importante. Deux choses importantes. Certaines populations ont plus de maladies génétiques parce qu'ils ont une consanguinité, donc ils se marient entre cousins, ce qui n'est pas le cas du Saguenay-Lac-Saint-Jean ni du Québec en général. Donc, on n'a pas de consanguinité associée à ça. C'est simplement qu'on avait une homogénéité génétique plus importante et aussi un taux de natalité très élevé pendant très longtemps.
Ouais.
Donc, quand on parle, par exemple, de la dystrophie myotonique, ça prend, on a une chance sur deux à chaque grossesse d'avoir un enfantin. Donc, quand on a 16 enfants, on en a déjà 8 qui l'ont et qui ne le savent pas. Donc là, ça vient jouer sur la prévalence de ces populations-là, par exemple, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais ça existe. Il y a plusieurs maladies qui ont des prévalences plus élevées dans certaines parties du monde.
Oui. Et vous touchez un point assez intéressant qui, j'imagine, est la pierre angulaire, c'est-à-dire de porter ce défaut génétique et de ne pas le savoir. Est-ce qu'il y a des moyens maintenant d'être plus au fait de ce qu'on peut transmettre à nos enfants?
Oui, tout à fait. Évidemment, il y a tout un aspect, je dirais, éthique lié à la connaissance de nos gènes récessifs qui pourraient être porteurs d'une maladie ou donner une maladie. Par contre, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean a été pionnier dans le développement, dans le fond, d'un test de porteur qui a été offert à l'ensemble de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean comme projet pilote sous l'égide du ministère de la Santé et qui a permis, dans le fond, à l'ensemble des personnes qui désiraient avoir un enfant dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec évidemment une rencontre en génétique pour bien comprendre les implications, pour être capable de voir s'ils étaient porteurs d'un des 5 gènes les plus communs, les gènes récessifs communs dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et c'est un projet maintenant qui a été extrêmement porteur, qui a été très bien reçu par le ministère et qui, dans le fond, qui continue de l'avant au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour offrir aux gens, dans le fond, de savoir s'ils sont porteurs de ces maladies-là et par la suite de faire un choix éclairé. Donc, de voir quels, de par leur croyance et leur valeur, de décider qu'est-ce qu'ils vont faire par rapport aux choix reproductifs qu'ils ont par rapport à ça. Donc oui, il y a des choses, mais il y a un côté éthique extrêmement important.
Ça soulève beaucoup de questions.
Beaucoup de questions par rapport à ça. Donc, il faut faire attention. Mais si c'est fait de façon coordonnée et informée, je pense que ça peut avoir des avantages très importants.
En terminant, Cynthia, est-ce que la recherche demeure stimulante en ce qui a trait aux maladies neuromusculaires, autant ici au Québec, au Canada qu'ailleurs dans le monde? Sur quoi, en ce moment, les recherches se penchent principalement?
Je dirais que c'est une époque extrêmement excitante parce qu'il y a de plus en plus de collaborations internationales. Donc, présentement, dans la taxie de Charlevoix-Saguenay, on a, grâce à la fondation de la taxie de Charlevoix-Saguenay de dystrophie musculaire Canada, dans un programme international qui s'appelle ERARE, on va se rencontrer avec 7 pays pour favoriser l'avancement, dans le fond, du diagnostic des ataxies qui sont non répertoriées, mais aussi dans l'avancement de registres cliniques et d'outils de mesure pour favoriser, dans le fond, l'établissement d'essais thérapeutiques pour la première fois dans certaines maladies en ataxie. Et aussi, la même chose se produit, par exemple, en dystrophie myotonique. Donc, on est beaucoup dans l'air des essais cliniques et de tout ce qui tourne autour. On est aussi beaucoup dans l'intervention au niveau de la réadaptation, comment donner des meilleurs soins à ces populations-là. Donc, c'est une très belle période.
Tout ça, bien sûr, pour un meilleur suivi, un meilleur accompagnement des personnes atteintes de maladies neuromusculaires et de leurs familles.
Exactement.
Oui. Cynthia Gagnon, vous êtes professeure agrégée à l'École de réadaptation, Faculté de médecine et des sciences de la santé à l'Université de Sherbrooke, également directrice du groupe de recherche interdisciplinaire sur les maladies neuromusculaires qui, je le rappelle, et on glissera bien sûr le lien, qui continue d'offrir de l'information aux familles et aussi de créer des ponts entre les différents intervenants en santé.
Bien, merci beaucoup pour votre intérêt dans nos travaux.
Merci à vous, Cynthia. Au revoir.
Au revoir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens. Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux. Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse. Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@vusevois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Caroline Apollon, bonjour!
Bonjour!
Vous amenez de la couleur un peu en studio avec votre beau veston rouge.
Merci. J'ai essayé de faire venir le soleil.
Oui, parce qu'on y a goûté, hein, il nous manque déjà. Caroline Apollon, vous êtes directrice du développement à la Fondation de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas. Et là, pour nous parler d'une grande fête, d'un grand rassemblement, deuxième année pour vous, de ce défi Douglas, le 14 août prochain.
Exactement. On va avoir un défi Douglas. Le défi, en fait, c'est un événement sportif, un rendez-vous sportif qui est ouvert à tous, des athlètes tant que des personnes qui veulent essayer l'expérience du triathlon. L'idée, c'était de répondre à deux besoins qu'on avait, à répondre à deux réalités. La première était de sensibiliser les gens à la santé mentale. C'est quelque chose qui est assez tabou. Les gens ont assez honte de parler de la santé mentale, de la maladie mentale, en fait. Les gens sont beaucoup plus à l'aise de dire qu'ils sont des survivants du cancer ou d'autres types de maladies, mais pas beaucoup de gens vont dire qu'ils ont survécu à un suicide ou qu'ils ont déjà eu, qu'ils ont déjà souffert de dépression,
par exemple.
Exactement.
Ouais.
Et le deuxième but, c'était en fait d'amasser des fonds, parce que la santé mentale, c'est le parent pauvre de la médecine. C'est pourtant quelque chose qui est très important, puisqu'un Québécois sur cinq va souffrir d'une maladie mentale au cours de sa vie. Et c'est quelque chose qui n'affecte pas seulement le patient, mais qui affecte toute la famille, toutes les personnes qui aiment, qui entourent cette personne-là.
Voilà.
Alors, on voulait faire un événement fédérateur qui pouvait rejoindre les gens d'une manière non agressive, tout en les encourageant à participer.
Et surtout que ça se fait par une activité sportive, et on le sait de plus en plus, les recherches nous prouvent, nous disent qu'activité sportive et santé mentale, ça va de pair.
Absolument. Il y a même, dans certains cas, l'activité physique ralentit la progression de la maladie. Ça aide même à prévenir. Et même dans certains cas, ça l'a guéri. Ça a été un contributeur d'une guérison précoce.
Ouais.
Alors, on s'est dit, quel meilleur moyen que de créer un événement qui unit la santé physique et la santé mentale pour pouvoir un peu parler de ce sujet qui est si tabou et pourtant qui ne devrait pas l'être.
Oui. Vous parlez de tabou, Caroline Apollon, mais j'ai l'impression, de mon côté, que ça l'est de moins en moins. Vous qui évoluez dans ce milieu-là tous les jours à titre de directrice de développement à la Fondation de l'Institut Douglas, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des progrès par rapport à la perception que l'on a des personnes qui vivent avec un problème de santé mentale?
En fait, oui. Il y a quelques années, personne n'en parlait. Maintenant, il y a des corporations telles que Bell qui ont décidé d'en faire leur cheval de bataille et d'en parler comme cause sociétale. Il y a aussi des patients qui, auparavant, lorsqu'ils étaient traités au Douglas et avaient réussi leur vie, voulaient juste oublier cette expérience de leur vie. Et de plus en plus de gens parlent parce qu'ils se rendent compte que c'est en parlant de ce qui a fait mal, de ce qui leur est arrivé, qu'ils arrivent à briser l'isolement. Le plus gros problème dans la santé mentale, c'est aussi cette perception d'être seul, que personne ne vous comprend, qu'il n'y a pas de lendemain. Alors, pouvoir en parler avec d'autres personnes, pouvoir créer cette réalité que ce n'est pas une question de faiblesse, ce n'est pas une question d'être mal, d'avoir une mauvaise éducation.
Oui.
C'est vraiment
Ou d'être faible, exactement.
Alors, ça permet aux gens de vouloir en parler et puis de s'ouvrir à ça.
Est-ce qu'à l'édition de l'année précédente, il y avait d'anciens patients qui ont participé au défi?
En fait, la première édition, ça a été assez, assez spécial parce que c'était quelque chose qu'on a fait un peu à la dernière minute. Donc, c'était vraiment un test. On a eu des gens de partout. On a eu des étudiants au MBA du HEC. On a eu des corporations. On a eu des médecins qui ont participé. Et cette année, on a des patients qui m'ont contacté qui désirent participer, qui désirent redonner au Douglas.
1200 personnes qui sont attendues?
C'est 1200 personnes avec le triathlon de Verdun-Desjardins. Nous, on se greffe à ce triathlon-là. Parce qu'ils ont la logistique, ils ont l'expertise. Et puis, c'est une équipe formidable qui ont décidé de soutenir le Douglas dans cette cause-là.
Oui. Maintenant, ça servira à la recherche. Les fonds recueillis serviront à la recherche. Peut-être enfants pauvres, vous le disiez, en ce qui a trait à la santé mentale. Quels sont les accents mis sur la recherche en ce moment ou peut-être les priorités en ce qui a trait à la recherche?
En fait, le Douglas a 4 programmes de recherche principaux qui vont de la recherche fondamentale à la communauté et qui couvrent tous les stades de la vie, des aspects de neurodéveloppement et de vieillissement. Ce qu'il y a de particulier au Douglas, c'est qu'on commence avec la pédopsychiatrie jusqu'à la gérontopsychiatrie. Donc, on couvre vraiment tous les stades de la vie. On a des experts de renommée internationale qui couvrent 4 programmes spécifiques qui sont le vieillissement, cognition et maladie d'Alzheimer. Avec le docteur Jules de Poirier.
Mais oui, on l'aime bien, lui.
Oui, 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 il est très connu. On a la santé mentale et société avec Alain Brunet. On a les psychoses, désordres neurodéveloppementaux avec Rida Joubert. Et on a le stress, troubles de l'humeur et impulsivité avec Naguib Meshawar. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment les 4 programmes sur lesquels l'Institut se concentre à trouver des réponses afin de pouvoir être plus près de la solution.
Oui. Est-ce que c'est encore possible de s'inscrire à ce défi sportif?
Absolument, et je vous encourage fortement. C'est ce qu'on veut faire. On veut que les gens participent. On cherche des gens de tout horizon. On veut que tout le monde puisse participer à ce mouvement-là parce que la maladie mentale ne fait pas de discrimination. Oui. Ça n'a absolument aucune importance, le niveau d'études, la religion, l'amour qu'on a reçu de ses parents. Ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Il peut y avoir un traumatisme qui arrive dans la vie et ça déclenche une panoplie de choses. Donc, on veut vraiment des gens de partout. La Fondation travaille avec des corporations, avec des commerces locaux pour pouvoir avoir des équipes corporatives, mais aussi avec des employés. On essaie de vraiment promouvoir cet événement-là pour que tout le monde puisse y participer. On va avoir des conférences, on va avoir des chercheurs qui vont parler de ce qui se passe dans le cerveau. Comment notre banque de cerveau, qui est unique en Amérique du Nord, ouais, est capable d'emmener d'autres chercheurs à trouver des solutions et surtout s'approcher de possiblement des ouais, remèdes ou des outils pour mieux gérer les maladies mentales.
Alors, on glissera les informations afin de se rendre à ce défi sportif Douglas 14, où, je le rappelle, Caroline Apollon. Et ben, si vous êtes un athlète aguerri ou encore si vous vous mettez à la course, tout comme moi, ben, vous êtes les bienvenus. Caroline Apollon, vous êtes directrice du développement à la Fondation de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas. Merci beaucoup, ça a été un plaisir.
Je voudrais juste ajouter que pour pouvoir s'inscrire, vous pouvez aller au www.fondationdouglas.qc.ca. Merci beaucoup.
Merci Caroline. Merci Jean-Sébastien. Bye bye, à demain. Portez-vous bien.